au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Samuel Bedel à la régie. Pourquoi quatre fois bonjour?
Je ne sais plus.
Il sait
J'ai
plus.
Complètement oublié.
C'est correct. C'est vrai que la jeunesse oublie puis la vieillesse se rappelle. Non, c'est pas ça. Alors, quatre fois bonjour parce que c'est quatre fois mieux qu'un seul. Eh oui, pas plus compliqué que ça. Puis c'est drôle, puis ça nous fait du bien, puis ça part l'émission avec un sourire. Pardon, aujourd'hui... Attends un petit peu. On va remettre la musique, vous faites pas. Bon, j'avais... Hein, le Chabot avait un chat dans la gorge. Voilà, il est parti, le petit minou. Tout ça pour dire, aujourd'hui, c'est le 19 août 2025. Côté météo... Là, c'est quand même un ciel au Québec partiellement ensoleillé. On s'en va dans des maximums autour de 23 degrés. En Ontario, il pourrait y avoir de la pluie en après-midi, surtout dans la région de Toronto, maximum 21 degrés. Dans les provinces maritimes et de Terre-Neuve et Labrador, c'est une journée ensoleillée, mais ça reste quand même dans des températures plus agréables, 22 degrés. Dans les prairies, par contre, Calgary, ça monte à 28 degrés sous le soleil. En Saskatchewan, 34 degrés avec un humidex qui peut se rendre jusqu'à 40, donc un avis de chaleur ou un avertissement de chaleur en vigueur. Manitoba profite de 26 degrés, partiellement ensoleillé. Et en Colombie-Britannique, Vancouver présente 24 degrés et du soleil. C'est une météo qui a été préparée grâce à l'aide de Gemini. Pour une raison, j'ai un petit doute, fait que je vais revérifier, puis je la referai un petit peu plus tard, parce que tantôt ça marchait, là j'ai un petit doute. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. Ça a été créé en 2003, cette journée-là, à la suite de décès d'employés, des travailleurs humanitaires qui ont été tués lors du conflit en Irak. Et cette année, en fait 2024, 383 travailleurs humanitaires ont été tués. C'est une hausse de 31% par rapport à 2023. Donc aujourd'hui, 1942 en France, c'est le raid de Dieppe, une opération militaire menée par les Alliés, principalement par la 2e division d'infanterie canadienne sur les côtes de la Normandie. Le raid est un échec cuisant, causant de lourdes pertes pour les Canadiens, plus de 900 morts. Bien que tragique, ce raid a permis d'acquérir des leçons cruciales qui ont été bénéfiques pour le débarquement de Normandie du jour J en 1944. 1953, en Iran, la CIA et le MI6 britannique orchestrent un coup d'État pour renverser le premier ministre Mohamed Mossadegh et rétablir le Shah Mohamed Reza Pahlavi. Excusez-moi. L'opération est connue sous le nom de Trap-Jax et menée avec l'aide de l'Ayatollah Abdul Qassam Kachani et du général Fazlullah Zahedi. Ah oui, l'Iran, ça a été quelque chose. Hein? En 1991, rappelez-vous, c'est un coup d'État en août, aujourd'hui, qui éclate à Moscou. Un groupe de communistes de la ligne dure tente de renverser le président Mikhail Gorbatchev, mais la tentative échoue après 3 jours de résistance populaire menée par Boris Eltsine. Et cet événement précipite la dissolution de l'Union soviétique que Vladimir Poutine essaye de rétablir, on dirait. Les naissances importantes, 1871, aux États-Unis, Orville Wright, pionnier de l'aviation, qui, avec son frère Wilbur, a conçu et construit le premier avion à moteur. Ah, bien lui, hein, c'est longtemps qu'on n'a pas parlé, 1946, Bill Clinton, qui a été le 42e président des États-Unis, il a dirigé le pays de 1993 à 2001. Et puis toujours aux États-Unis, 1969, Matthew Perry, qui est acteur et producteur, connu pour son rôle de Chandler Bing dans la série à succès Friends, est mort. Lui, par contre, est mort en 1923 à Los Angeles. Puis des dessins importants, Blaise Pascal, en 1662, qui est à l'origine de plusieurs théorèmes de géométrie et qui a été l'inventeur de la première machine à calculer. 1994 aux États-Unis, Linus Pauling, chimiste, physicien et militant pour la paix aux États-Unis, et pour la paix dans le monde, en fait, il est le seul lauréat à avoir reçu le prix Nobel dans 2 catégories différentes, le prix Nobel de chimie en 54 et le prix Nobel de la paix en 62. Donc, il est mort à ce jour en 1954. Oui, on va parler d'Air Canada aujourd'hui. J'ai même déniché un expert, en fait, un agent de voyage qui connaît bien les choses, qui a accepté de nous parler un peu de ça va être quoi les prochains jours, parce que ça risque d'être un petit peu infernal. Il sera là à 10 heures. On va aussi avoir une chronique économie. On va parler de la hausse de l'inflation parce que là, les chiffres viennent de sortir. Alors, Michel Portevin est en train de regarder ça. Il va nous en parler un peu plus tard à l'émission. Et on aura aussi notre chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Puis moi, je vous invite à aller écouter la chanson du jour.
«
Quelques jours à peine, difficile de croire que tu n'es plus là. Un soir de déveine, foutu hasard, enfin, c'est comme ça. La vie est soudaine, surtout quand elle s'en va. Mille vagues t'emportent, mille vagues t'emportent, mille vagues te renversent, tu ne connais plus la peur. À peine ton dernier message qui dit à demain. Demain éternel, ton nouveau rivage, si proche et si loin. La vie est soudaine, surtout quand elle s'en va. Mille vagues t'emportent. Mille vagues t'emportent, mille vagues te renversent, tu ne connais plus la peur. Mille vagues t'emportent, mille vagues t'emportent, mille vagues nous traversent, mille vagues. On ne connaît pas l'après. Je fais les tiroirs de ma mémoire pour te trouver, toi. Ce dont je me rappelle, maintenant qu'il fait noir, je le garde pour moi. Je te garde pour moi. Je te garde.
Écoutez Feu Chatterton, Mille vagues.
Alors voici la revue de presse préparée avec l'aide de l'intelligence artificielle, notamment Gemini de Google. Les usagers d'Air Canada peuvent pousser un soupir de soulagement ce matin. La direction et le syndicat canadien de la fonction publique, qui représente les agents de bord, ont annoncé être parvenus à une entente de principe dans la nuit. Cette nouvelle met fin à la grève qui a complètement interrompu les opérations de la compagnie aérienne depuis 3 jours. La reprise progressive des vols est déjà en cours, mais il est conseillé aux passagers de vérifier l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport. Les détails de l'entente n'ont pas encore été révélés, mais les négociations ont été qualifiées de très intenses. Les feux de forêt en Espagne, eh bien, la situation continue d'être préoccupante. De nouveaux foyers se sont déclarés hier et les autorités ont dû déployer 500 soldats supplémentaires pour prêter main-forte aux 1 400 pompiers déjà sur place. Plus de 343 000 hectares ont été déjà brûlés depuis le début de l'année. La situation climatique marquée par une sécheresse prolongée et des températures élevées rend la tâche des équipes d'intervention extrêmement difficile. La population est invitée à faire preuve d'une grande vigilance. Le président états-unien Donald Trump a annoncé ce matin qu'il allait commencer les préparatifs d'une rencontre entre les présidents de l'Ukraine et de la Russie, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. L'objectif est de trouver une solution pour mettre fin au conflit. Selon Le Figaro, la rencontre se tiendrait à Washington. Les dirigeants européens ont également prévu de se réunir avec le président ukrainien avant ce sommet, dans le but de coordonner leurs positions. Les services de santé de New York ont annoncé 5 décès liés à la légionellose dans la métropole. Les autorités pointent du doigt les systèmes de ventilation des bâtiments comme étant la source la plus probable de l'éclosion. Une enquête est en cours pour identifier précisément la cause de la contamination. La légionellose est une infection pulmonaire grave, mais qui ne se transmet pas de personne à personne. La saga des dépenses de l'ex-lieutenant-gouverneur du Québec, Lise Thibault, tire à sa fin. Sa maison qu'elle partageait avec son mari a été vendue. Cette transaction vient mettre un terme à l'un des chapitres les plus médiatisés de l'actualité judiciaire de la province. Le scandale qui a éclaté il y a près de 20 ans avait révélé de somptueuses dépenses effectuées avec l'argent public. On rappelle aussi que Mme Thibault a dû purger une peine de prison pour ça. Produits de santé miraculeux, des experts de la santé tirent la sonnette d'alarme concernant une nouvelle vague de produits de santé promus sur les réseaux sociaux. Des vidéos vantant les bienfaits miraculeux d'aliments comme la gelée de Goémon ou le collagène pullulent sur TikTok et autres plateformes. Le Journal de Québec met en garde les consommateurs, soulignant que plusieurs de ces produits ne sont pas aussi efficaces que prétendent leurs promoteurs. L'efficacité des suppléments sous forme de jujubes est également remise en question. Une nouvelle qui a fait la manchette à Sainte-Thérèse, sur la rive nord de Montréal, la ville en est à sa 3e tentative pour remplacer une glissoire de sa piscine municipale pour un coût total de 225 000 $. L'histoire a fait réagir de nombreux citoyens qui s'interrogent sur la gestion des fonds publics. Dans les Caraïbes, l'ouragan Erin continue sa progression près des Bahamas. Les prévisionnistes craignent une augmentation de la menace de vagues destructrices, sur les côtes états-uniennes dans les prochaines heures. Les autorités locales sont en état d'alerte et surveillent de près la trajectoire du phénomène météorologique. Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a remporté l'élection partielle en Alberta. Il s'agit d'une victoire symbolique pour les conservateurs parce qu'ils étaient déjà là. C'est un siège qui avait été remporté aux dernières élections générales en avril avec 82 % du vote. C'est 80 % pour Pierre Poilievre, donc il est resté dans des chiffres phénoménaux. Poilievre, par contre, n'en est pas au fin de ses peines, au bout de ses peines, parce qu'il devra faire face à un vote sur son leadership, un vote de confiance dans les prochains mois dans le cadre d'un congrès du Parti conservateur. La ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Pascale Derry, a dévoilé un guide sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les cégeps et les universités. Cette initiative a pour but de fournir des outils concrets aux institutions d'enseignement pour guider les professeurs et les étudiants dans l'utilisation de cette nouvelle technologie, tout en s'assurant de la qualité et de l'intégrité des travaux. Un policier états-unien est arrêté par l'ICE. C'est vrai, dans le Maine, un policier a été arrêté par le Service d'immigration et des douanes états-uniens, ICE, et a accepté de quitter volontairement le pays. Les détails de l'affaire n'ont pas été rendus publics, mais cette arrestation soulève des questions sur le statut d'immigrant des forces de l'ordre des États-Unis. Dans les forces de l'ordre des États-Unis. Et puis enfin, en Colombie-Britannique, une statue de l'ancien gardien de but du Canadien de Montréal, Carey Price, a été dévoilée à Williams Lake, la ville où il a joué au hockey mineur. La sculpture a été réalisée en bois et c'est un hommage au parcours de ce grand sportif. Alors, c'était nos unes aujourd'hui, préparées avec l'aide de Gemini, l'intelligence artificielle de Google.
vacances. Oh 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 oh. On part en vacances. On part en vacances. N'importe où. Appelez-moi pas. Oh non, cherchez-moi pas. La tête dans les nuages, c'est sûr que je répondrai pas. Je mets mon corps sur le mode avion, mais je sais pas comment voler. Je veux partir à la course sans jamais me retourner. Non, assez c'est assez, ouais, debout ou assis. Quand ça se met à tourner, ben il vaut mieux partir d'ici. Pas de chicane dans la cabane, mais quand la maison est en feu, mieux vaut quitter le navire que de couper la poire en deux. Mais c'est tout le temps pareil quand on en fait trop. Oh 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 oh. Tout le temps pareil quand t'es au bout du rouleau. Oh oh oh. On part en vacances. On part en vacances. Mais oh 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 oh. On part en vacances. On part en vacances. N'importe où. On part en vacances. On part en vacances. Oh 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 oh. On part en vacances. On part en vacances. N'importe où. Toute la journée, les journées viennent pas à bout de se terminer. Oh oh, je voudrais faire comme Jennifer et partir si loin sur la terre pour oublier l'ensemble de mes soucis. Mais c'est tout le temps pareil quand on en fait trop. Oh 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 oh. Tout le temps pareil quand t'es au bout du rouleau. Oh, oh, oh. On part en vacances. On part en vacances. Ouh, 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 ouh. On part en vacances. On part en vacances. N'importe où. On part en vacances. On part en vacances. Ouh, 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 ouh.
On écoutait à l'instant le panda, on part en vacances.
Vu et Voix est fier de vous inviter à sa conférence « Intelligence artificielle et handicap visuel, transformer l'accessibilité ». Cet événement 100% virtuel et gratuit aura lieu les 16 et 17 septembre 2025. Il rassemblera des experts de la technologie, de l'éducation et du droit pour explorer l'impact profond de l'intelligence artificielle sur la vie des personnes ayant une déficience visuelle. La conférence est l'occasion de comprendre les avancées de l'IA et d'agir ensemble pour bâtir un futur numérique plus inclusif. Vous y entendrez des experts comme Louis-Philippe Massé de Humanware, Maître Karina Kesserwan qui aborderont des thèmes allant des technologies d'assistance au défi du droit d'auteur. Alors, pour vous inscrire et participer à cette conversation essentielle, visitez le site web aujourd'hui, Conférence handicap visuel en un seul mot en minuscule. Conférence handicap visuel en un seul mot et en minuscule, pas d'accent, .com. Le Centre d'information sur le sport, en date du 6 août, une récente analyse publiée par le Centre de documentation pour le sport met en lumière un enjeu important dans le monde du sport jeunesse. les systèmes de détection des talents actuels sont souvent trop exclusifs. Selon l'étude, ces systèmes favorisent de manière disproportionnée les jeunes issus des milieux socio-économiques aisés et qui vivent dans les grandes villes, laissant de côté des talents qui ne se développent que plus tard. On le voit notamment dans le soccer au Canada, où des joueurs prometteurs sont découverts bien tardivement. Les coûts élevés et une approche trop centrée sur les résultats et sur les adultes limitent le potentiel de ces jeunes athlètes. Pour y remédier, l'article propose d'intégrer des principes d'équité, de diversité et d'inclusion dans la structure même de ces programmes sportifs. Parmi les solutions concrètes, on suggère de décentraliser les ressources, d'offrir des environnements flexibles et sécuritaires sur le plan psychologique et de mettre l'accent sur le plaisir plus que sur le plaisir au lieu de juste pour gagner, hein, le plaisir de jouer. C'est quoi? C'est le baron Pierre de Coubertin qui semble-t-il... Ben ça, en fait, on lui a attribué ça, mais semble-t-il que c'est pas lui. L'important, c'est de participer, non pas de gagner. Mais semble-t-il que c'est pas lui. Quand je suis allé à Athènes, on m'avait bien signalé que c'était pas lui. Puis là, la mémoire me lâche, mais c'était pas lui qui avait dit ça. Mais il se l'est approprié. C'était prévu beaucoup de choses, d'ailleurs, ce cher baron. L'objectif final est de garder la porte ouverte le plus longtemps possible pour les jeunes. En adoptant cette approche, on ne donne pas seulement la chance à plus de jeunes d'atteindre leur plein potentiel, mais on contribue aussi à créer une culture de haute performance plus forte, plus juste et plus durable pour l'ensemble du sport. C'est un projet novateur pour les adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme qui verra le jour en octobre en Gaspésie. Le ministre Lionel Carma, qui est le ministre donc des Affaires sociales et de la Santé, en fait adjoint, je pense, faut que je dise comme ça, s'est rendu à Gaspé la semaine dernière pour l'inauguration de la résidence Demeure-toi. Cette initiative unique proposera 11 logements adaptés et un 12e pour un locataire accompagnateur afin de favoriser l'autonomie et l'inclusion sociale des résidents. Selon le ministre, ce projet est une première pour la région et même pour l'ensemble du Québec. Pour les familles, c'est une véritable bouffée d'air frais. Claudine Dupuis, la présidente de Demeure-toi, a rappelé le plus grand souhait des parents, avoir l'assurance que leur enfant soit en sécurité pourra continuer à s'épanouir. Hein? Parce que quand les enfants sont malades ou ont des situations comme ça, bien, parfois, les parents, quand ils meurent, ça les inquiète avant de mourir. Bien, voilà, c'est le genre de truc qu'il faut toujours considérer. Hein? Ce projet apporte la paix d'esprit et la possibilité d'une vie plus autonome pour ces jeunes adultes. Une belle histoire qui met l'accent sur l'importance de l'entraide et de l'inclusion. J'ai le temps d'une petite nouvelle très courte. La psychologue Hélène David revient sur la série québécoise Empathie qui sera bientôt diffusée en France. L'œuvre qu'elle qualifie de formidable aborde avec courage les drames liés à la maladie mentale et aux hospitalisations en milieu psychiatrique et pénitentiaire. Inspirée par sa propre carrière, Hélène David loue la capacité de l'autrice Florence Lompré, qui est aussi la principale actrice, à présenter la fragilité des patients sans porter de jugement, tout en exposant la vulnérabilité des soignants et l'impact sur les familles. La série contribue à mieux comprendre ces troubles qui font souvent peur et à développer notre empathie, un succès mérité qui humanise des problèmes de santé mentale trop souvent méconnus.
Talking about these waterfalls. Call me 'cause it's over.
Et on écoutait Sabrina Sabotage, C'est Over.
Une nouvelle tirée de ici.com. À Verdun, l'exposition Éloge d'un fauteuil maudit dénonce le capacitisme, soit la discrimination envers les personnes en situation de handicap. Présentée jusqu'au 14 septembre au quai 5160, cette exposition a été conçue par le collectif Cummings et Pifco en collaboration avec l'artiste Gaëtan Cummings, elle-même en fauteuil roulant. Qu'est-ce que le capacitisme? L'Office québécois de la langue française définit le capacitisme comme des attitudes ou comportements discriminatoires fondés sur la croyance que les personnes vivant avec une déficience, un handicap physique ou un trouble de santé mentale ont moins de valeur que les autres. Ce mot, traduit de l'anglais, en fait, « ableisme », existe seulement dans le dictionnaire Oxford en anglais. En français, donc, on parle aussi de « validisme » selon le Robert. Alors, une exposition, allez voir si vous avez du temps, d'ici le 14 septembre, au quai 5160. Et si j'ai bien compris, c'est gratuit. Après la pause, on va parler d'Air Canada, on va parler aussi de taux d'inflation. Ça s'en vient tout après la pause.
Bon avant-midi. Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Et on écoutait Geneviève Bilodeau, Laetitia.
Ça me tente de vous faire entendre une petite musique, en fait, un message publicitaire des années 70, je pense.
Mon bikini, ma brosse à dents.
J'attends le soleil, les dessins du bouton.
Je prends l'avion pour le bouton.
J'attends l'omelette où je trempe les dents.
Mon bikini, ma brosse à dents.
J'attends la corbeille où c'est mettre sous la dent.
Pour 14 soleils, c'est suffisant.
Oui,
bon, ça, c'est clair que les millénarios, puis même je pense que la génération X ne connaîtrait pas ça, mais toi, je suis certain, notre agent de voyage préféré, Pascal Chalmel, de LGBT Voyage et de l'agence Espace Voyage qui On va nous expliquer un peu ce qui se passe. Toi, tu connais ça, cette chanson-là. Tu avais déjà entendu?
Oui, oui, ça me dit vraiment quelque chose. Tout à fait. Oui, c'est très approprié.
Puis ceux qui ne reconnaissaient pas la voix, c'est Dominique Michel qui chantait ça. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on va parler d'Air Canada, dont le conflit a certainement ruiné ou du moins gâché ou peut-être rendu les choses pénibles pour les projets de voyage des gens. D'abord, Pascal, toi qui vis là-dedans à la journée longue, comment ça a été les derniers jours?
Ben écoute, moi j'ai été épargné de tout ça parce que je te dirais qu'avec les menaces de grève et étant agent de voyage depuis 35 ans, j'en ai vu d'autres. Et de quand j'ai vu que ça commençait à sentir la soupe chaude chez Air Canada il y a quelques mois, j'ai quand même dirigé ma clientèle ailleurs. Honnêtement, j'ai eu un feeling où je me suis dit, bon, si ça arrive à ça, je vais essayer de limiter les dégâts. Et personnellement, j'ai pas eu de dossier, honnêtement. Par contre, j'ai des collègues qui ont eu des dossiers. Beaucoup de collègues ont eu des dossiers, tout ça. Puis oui, c'était toute une... C'est quelque chose. Moi, j'ai pas été épargné à la pandémie. Mais là, je m'étais dit, quand il y a des menaces de grève, parce qu'on s'entend, qu'on en parle depuis pas mal de temps. Hein. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qui est tombé du ciel du jour au lendemain, hein, un petit peu comme la pandémie. Là, on s'était préparé. Mais ça a été... Oui, ça a été... C'est l'enfer dans les agences de voyage présentement. Je dirais que c'est très difficile pour mes collègues conseillers. Là, je me suis mis dans la peau de pas mal d'agents de voyage ces derniers temps, puis ça n'a pas dû être drôle. Moi, j'avais pas de départ. Alors,
ça ne sera pas drôle non plus les prochains jours. Je vais t'amener sur quelque chose que moi, j'ai quand même des personnes très proches de moi qui ont voyagé. Ils avaient réservé leur billet quand même sur le site web ou l'application d'Air Canada. Et je pense que c'était samedi. Il y en a un qui a reçu 5 courriels ou textes, en fait, entre 5 messages et textes qui se contredisaient.
Ben, je pense que la communication au niveau d'Air Canada, ce qui se passe, c'est que eux autres, ils attendent toujours la dernière minute. Hein. Moi, je voyais aussi les communiqués, puis je voyais qu'ils remettaient les vols, puis ils faisaient envoyer les gens à destination. Ils pensaient toujours qu'il y aurait un miracle qui allait se produire. Mais je pense qu'au niveau de la communication, ça a été très, très, très bordélique, parce que même les gens à destination, ça a des gens qui sont encore dans le sud, là, qui ont dû rester une semaine de plus, qui recevaient des avis, qui n'ont pas trouvé de vol pour des retours ou quoi que ce soit. Mais... dans ce genre d'événement en général, c'est sûr que ça devient chaotique. Puis c'est sûr que ça devient... eux autres, ils ont je sais pas combien de vols par jour. Et puis, au niveau des communications, bah, malheureusement, ils t'envoient un changement, un autre changement, quoi que ce soit.
J'avais vraiment l'impression que c'était n'importe quoi. C'est dommage, là, parce que là, on va s'entendre. On parle pas des employés d'Air Canada, parce que lorsqu'on a la chance de leur parler... c'est des gens dévoués. On ne va certainement pas critiquer les employés, mais il me semble que corporativement, c'était l'enfer. Par exemple, la personne qui devait retourner en France ce week-end, la compagnie lui dit, on va regarder les vols, puis même pas 10 secondes plus tard, non, on n'a rien trouvé. Alors moi, je vais sur Internet, j'en trouve, là. J'en trouve plein de vols. Alors là, ils disent, n'allez pas à l'aéroport. Finalement, on a insisté, on a appelé, on a fini par parler à quelqu'un. Ah, tout à coup, ils avaient trouvé un vol, passant par les États-Unis.
Ben, je pense que Air Canada a en réalité poussé les vols de leur de Star Alliance, en réalité, de leurs compagnons, là, en réalité, et de ceux avec qui ils sont affiliés. Donc, je pense que beaucoup de gens se sont trouvés à ce qu'ils aient la même réponse, qu'il n'y avait pas de vol. Et finalement, il y en avait, mais c'est sûr que pour tout ce qui est dans les gens dans le sud ou quoi que ce soit, c'est des vols sur certaines destinations, il n'y en a pas tous les jours non plus. Donc même s'ils essayaient de se rapatrier sur un vol d'Air Transat ou un vol de Sunwing, ben ces vols de ces compagnies-là en pleine saison comme ça, même pour l'Europe, hein, ces vols sont complets. Là. Donc les gens ont dû se retourner. C'est sûr que bon, il y a des alternatives. Hein, on va le répéter toujours. Tu sais, on a fait l'exercice avec la pandémie où les gens achetaient en ligne et puis. Moi, personnellement, j'ai dû à répondre et j'ai même mis un post sur mon Facebook en disant « Je ne peux pas vous aider parce que vous n'avez pas acheté avec moi. » Le problème, c'est que les gens, il y a une conscience que les gens, ils se disent « Ah, je vais acheter en ligne, tout ça. » Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand tu achètes avec un conseiller en voyage, c'est sûr qu'un conseiller en voyage, il n'a pas un avion pour aller te chercher. Par contre, tu es protégé par le fonds de la FICAV, le fonds de l'OPC.
Ouais.
Et on le répétait à la pandémie, on répète, mais les gens continuent. Moi, j'ai eu 3-4 courriels de gens qui me disent « Oh, j'ai acheté chez Air Canada, est-ce que tu peux m'aider ?» Non, je peux déjà d'une, je peux pas t'aider parce que j'ai pas accès au dossier.
Ben voilà, c'est ça que les gens comprennent pas. Tu n'as pas, c'est ça, les dossiers
j'ai
qui sont...
accès, ouais. C'est ouais. personnel, un dossier, ouais. puis moi, je peux pas.
Ouais.
Mais c'est sûr que quand c'est un dossier qui est acheté à l'agence avec... tu sais, les gens disent toujours, oh, ben, je suis dans mon salon, j'économise. Mais t'économises rien, on a à peu près les mêmes prix. Puis des fois, on charge un petit frais de dossier de 50 ou 75 piastres. Mais au moins, t'es protégé par la FICAV. Et la FICAV, elle existe. On pensait qu'avec la pandémie, les gens comprendraient le rôle de la FICAV, qui est de protéger le client. Et dans ce cas-ci, une grève, c'est protégé.
Ouais.
C'est protégé. Mais quand t'as acheté ton billet sur Internet, sur site Nowhere ou directement chez le transporteur, c'est clair et net. Et moi, je dirais aux gens... de bien vérifier ça avant d'acheter où tu achètes.
J'aimerais qu'on aborde une autre question, là, parce que, bon, les passes en Europe, les vols retardés, peu importe la raison, si je ne me trompe pas, c'est des indemnisations de 600 euros, qu'à peu près 920-930 $ par passager, puis les compagnies aériennes n'ont pas le choix. Il semble qu'au Canada, c'est compliqué de se faire compenser. Et surtout que là, Air Canada dit que c'est une grève, c'est hors de notre contrôle, mais c'est eux qui ont déclenché le lockout au départ. C'est chose ça.
Oui,
nos compensations, finalement, nos lois ne sont pas très bonnes.
Ben, le fait est, c'est que les gens acceptaient les remboursements aussi. Dans ce qu'on voit dans ce cas-ci, c'est que Air Canada ne retient pas les argents. Il rembourse le client. Donc, ils envoyaient un message au client en disant « Bon, ben, si tu acceptes le remboursement, tu n'as aucun recours contre moi. » Le problème, il est là, c'est que c'est sûr qu'au niveau des lois, et puis honnêtement, avec tout ce qui s'est passé au Québec à travers nos compagnies aériennes ces dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup. On parle de Sunwing, on parle de tout ça, des retards, tout ça. Donc, il y a beaucoup. Et puis, je pense que le système d'indemnisation ici au Québec, il y a toujours des formules de le contourner, et puis les compagnies s'en servent.
Ouais,
donc, mais effectivement, en Europe, c'est beaucoup plus sévère. Ici, dans le cas d'une grève, dans ce cas-ci, je te dirais que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau de ces indemnisations parce que le fournisseur envoyait un courriel au client et il fallait faire attention parce que si tu redécidais si tu décides de te faire rembourser par la compagnie aérienne, après ça, tu n'as plus aucun recours parce que c'est bien clair que si tu décides après ça, tu n'as plus de recours. Donc, mais c'est sûr que bon, là.
Je t'interroge, parce qu'on va manquer de temps, mais on sait aussi qu'il y a des recours collectifs qui se préparent, justement, pour contester cette loi. C'est à suivre. Maintenant, pour les prochains jours, toi qui connais un peu les choses, tu conseilles quoi aux gens, même s'ils n'ont pas été chez toi pour acheter, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Être patient, c'est quoi que tu leur conseilles?
Attendre, d'être patient. Tout ce qu'on espère, c'est que les gens qui sont à destination vont être rapatriés. Je voyais des gens qui étaient en République dominicaine, qui n'avaient pas. Et puis, il y a une chose que je veux dire aussi, c'est que les gens, là. Des fois, je vois des choses qui sont aberrantes. Les gens, ils partent avec juste une semaine de médicaments. Quand tu pars en vacances, là, prends-toi 2 à 2 semaines et demie de médicaments. Là. Tu sais, je voyais des gens...
Ah, mon Dieu, quel bon conseil. Oui.
Tu sais, des gens qui préparent... Il y a des gens qui parlaient même qu'ils avaient des cancers puis qu'ils avaient des traitements de chimio puis qui étaient... Mais, tu sais, moi, quand je lis ça, je fais... OK, je comprends que tu veuilles voyager... Mais d'un autre côté, il peut arriver n'importe quoi en voyage. Il peut se passer plein de choses qui fassent que tu peux pas revenir. Alors, je conseillerais aux gens d'être super préventifs et puis de toujours planifier. Tu sais, les médicaments, 2-3 semaines de médicaments, je sais que c'est exagéré, mais on ne sait pas ce qui peut se produire.
Tout à fait.
La vigilance.
Pascal Chalmel, donc, qui est propriétaire de LGBT Voyage et qui est aussi propriétaire de...
Espace Vacances.
D'ailleurs, et qui est aussi chroniqueur à mon autre émission qui revient cet automne comme chroniqueur voyage à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. C'est un plaisir de te reparler aujourd'hui. Passe une bonne journée.
Ben, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Merci. Bonne journée. Là.
Au revoir.
Bye.
Et si tout s'arrête demain, nous, il va nous rester quoi? Et si tout s'arrête demain? toujours voulu, t'as survécu, qu'il leur écrit. Dis-moi ce que tu veux de plus. C'est jamais bien, jamais assez. Pour plaire à du monde qui t'ont jamais remarqué. Te souviens-tu de par où t'es passé? Ils te jugeront quand ils ont porté tes souliers. Les prix, les chiffres, les statistiques, c'est pas beau sur le papier. Mais le temps est long toute seule quand le rideau est fermé. Et si tout ça.
La chanson « Si tout s'arrête demain » de Roxane Bruno.
Statistique Canada vient de sortir là, ses dernières données sur l'inflation. Et pour en discuter, on reçoit notre chroniqueur économique, Michel Poitvin, de l'Université de Montréal. Comment ça va, Michel?
Oh, ça va bien, merci. Et toi?
Oui, ça va bien. Est-ce que notre portefeuille se porte mieux?
Portefeuille un petit peu mieux, on pourrait dire. Ça nous a coûté un peu moins cher en juillet qu'en juin. L'inflation sur une base annuelle, donc c'est toujours comparé par rapport au même mois de l'année précédente, pour juillet était de 1,7%, alors qu'en juin, on était à 1,9%, donc un recul de l'inflation. Qu'est-ce qui explique ça? En gros, là, c'est la baisse du prix de l'essence. Là, sur un an, l'essence a baissé de 16%. Puis probablement que c'est dû... un petit peu des chicanes au sein de l'OPEP, là, l'organisation des produits des pays exportateurs de pétrole. Ils ont de la difficulté à s'entendre. Eux, ils contrôlent une grosse partie du marché mondial, peut-être moins que dans les années 70, ceux qui se souviendront là, de la crise de pétrole. Là, l'OPEP avait haussé en 1972 ou 73 le prix de l'essence ou du pétrole de façon drastique. Puis à l'époque, ils contrôlaient presque la totalité du marché mondial. Maintenant, c'est beaucoup moins. Les États-Unis sont pas dans l'OPEP, par exemple, le Canada non plus. Donc, il y a beaucoup de pays qui sont pas là, mais ils ont quand même une grosse partie. Puis, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'essayer de s'entendre pour réduire leur production, pour avoir des prix plus élevés. Mais quand les prix sont plus élevés, chacun aura la tentation d'augmenter en cachette sa production pour profiter des prix plus élevés. Puis c'est là où c'est difficile là, de...
Est-ce qu'on peut appeler ça, selon un certain Jacques Parizeau, donc les pays s'auto-pelure de bananes?
Ils s'auto-pelure de bananes. En économie, on appelle ça, bon, c'est un peu plus technique, là, le dilemme du prisonnier. Là.
Puis ah oui, oui, j'avais déjà entendu ça, oui.
Donc, c'est parce que l'OPEP, on pourrait dire, c'est un cartel qui contrôle une grosse partie de la production mondiale. Donc, ils veulent, tout le monde, collectivement, ils ont intérêt à réduire leur production, faire augmenter les prix, mais individuellement, chacun a intérêt à augmenter sa production pour profiter de la réduction de production des autres. Qui induit des prix élevés. Alors, c'est un peu comme le bien-être collectif versus le bien-être individuel là, qui joue. Là. Ah. Donc,
baisse du prix de l'essence.
Donc, ça
veut dire qu'il y a comme une nouvelle derrière la nouvelle. Là.
Oui, bien, sur un an, le prix de l'essence, sûrement, les gens l'ont remarqué à la pompe. Là, le prix de l'essence a baissé de façon significative. Puis sans... Si on exclut l'essence de l'indice de l'inflation, les prix auraient augmenté de 2,5 %. Donc, l'inflation aurait été de 2,5 % ce qui est très comparable aux deux derniers mois de mai et juin. Donc, on voit que l'essence, vraiment la baisse des prix, là, où le recul de l'inflation est essentiellement dû à la baisse du prix de l'énergie, notamment de l'essence.
Alors, si on regarde du côté regardons les chiffres justement pour les autres intrants,
composantes, là, dans ce...
oui, composantes, merci.
C'est ça. Les aliments, ça coûte un peu plus cher, 3,4% au lieu de 2,8% en juin, donc ça coûte un peu plus cher à l'épicerie. L'indice du prix du logement, ça c'est le logement neuf, a augmenté de 3% versus 2,9% en juin, donc ça c'est à peu près équivalent. Puis quand on parle de logement neuf, ce que Statistique Canada regarde, c'est la dépréciation des bâtiments, les taxes foncières, les assurances, l'entretien, la rénovation, etc. Donc, à peu près stable, là, on est passé de 2,9 à 3, c'est marginal comme augmentation. Par contre, les loyers ont eu une hausse plus importante. En juin, on était à 4,7%, toujours sur une base annuelle, alors qu'en juillet, on est à 5,1%. Donc, ça va être intéressant de suivre l'indice des prix des loyers dans les prochains mois. Là, il y en a beaucoup qui blâmaient le coût du loyer à l'immigration. Le gouvernement du Canada a décidé de réduire ses cibles d'immigration. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur le prix du loyer? Je suis pas convaincu, mais on verra. Ça va être à suivre.
Au Québec, de quoi ça a l'air au Québec?
Au Québec, mais au Québec, on est plus haut que la moyenne nationale. Donc, au Canada, t'as 1,7%. Au Québec, on est à 2,3%, légèrement supérieur à l'inflation du mois de juin à 2,2%. Donc, au Québec, on a un peu plus d'inflation. Des chiffres sortis, on ne nous donnait pas le détail pourquoi au Québec, qu'est-ce qui était plus élevé qu'ailleurs. Mais notre inflation est un peu plus élevée. Mais pas super élevée, mais un peu en haut de la cible de la Banque du Canada.
Alors, les conséquences de ça?
Bon, les conséquences, bon, la Banque du Canada, évidemment, observe. Donc, il y a une prochaine décision des taux d'intérêt le 17 septembre. La dernière était à la fin juillet, le 30 ou le 31 juillet, et la banque avait décidé de maintenir le taux directeur à 2,75. Ce maintien-là dure depuis plusieurs mois. Donc, qu'est-ce qui va arriver le 17 septembre? L'inflation semble relativement faible, là, même si décembre se joue un gros rôle, là. Puis on craint toujours l'impact des tarifs qui a un effet de ralentissement sur l'économie canadienne. Donc, il se peut que l'économie canadienne ait besoin d'un petit peu de coup de pouce via une baisse des taux d'intérêt. Donc, ça va être pas mal intéressant de voir ce qui va se passer à la mi-septembre à la prochaine décision de la banque.
Il nous reste à peu près trois minutes. Est-ce qu'on a le temps de parler on n'en a pas parlé la semaine dernière, des canneberges?
Oui, les canneberges. Bon, le Québec est un gros producteur de canneberges. On produit 90%. Le Canada est le deuxième producteur mondial de canneberges. Puis l'essentiel de la production, c'est dans le centre du Québec. Il y en a aussi en Colombie-Britannique, mais beaucoup au Québec. Puis 90% de cette production-là est exportée. Pourquoi on en parle? C'est que les producteurs de canneberges utilisent beaucoup d'eau. On inonde les champs, notamment pour les récolter. Vous avez déjà vu, c'est assez spectaculaire, les champs de canneberges qui sont inondés, puis tous les petits fruits rouges qui flottent. Donc, ça demande beaucoup d'eau. Puis l'eau, c'est une ressource rare. Et puis, le taux de redevance au Québec, par les entreprises, est de 35 $ par million de litres d'eau utilisée, prélevée dans les cours d'eau, les nappes phréatiques. Donc, 35 $ pour un million de litres, ça semble pas beaucoup. Effectivement, c'est pas beaucoup. Je suis allé voir en France combien on paie. J'ai pas trouvé le taux pour les entreprises, mais pour les consommateurs, parce que l'eau est tarifée en France. Il y a des compteurs, puis les gens payent à l'usage. Pour un million de litres d'eau, le consommateur ou le ménage français paye 7 200 $, alors que nous, on la vend 35 $ par million de litres d'eau à nos producteurs de canneberges. Je pense qu'il y aura il y aurait une petite réflexion à faire sur à quel prix on veut tarifier notre eau, là, parce que la tarification, c'est le meilleur moyen de préserver une ressource.
Oui. Ouais, moi, je voudrais conclure en disant, bien, évidemment, l'eau, ça risque de devenir encore plus rare au Canada parce que, bien, il y a certains dénommés Trump qui aimeraient bien mettre des barrages pour que l'eau reste aux États-Unis.
Oui, c'est ça, parce qu'on partage
beaucoup d'eau.
Ouais. c'est ça, les grands lacs et tout. Ouais. Effectivement. Puis les gens souvent sont contre l'exportation de l'eau, puis il faut y réfléchir. Mais en même temps, si on est pour la vente 35 $ par million d'eau aux producteurs de canneberge, les Américains étaient prêts à payer 2 000 $.
On va devoir arrêter ici, oui, Michel Poitvin. Merci beaucoup, puis à une prochaine fois, parce que la semaine prochaine, Hélène sera de retour.
Bon, bien, ça sera avec plaisir une prochaine fois.
Merci.
Merci, au revoir.
C'était Ariane Moffat et sa chanson « Nuit magique ».
J'ai le temps de vous lire une petite nouvelle. Des jeunes para-athlètes avec un handicap s'entraînent à l'Université Laval, encadrés par le Club d'athlétisme Rouge et Or. Le programme Parasport Jeunesse offre un soutien unique à des adolescents âgés de 13 à 14 ans, dont Annabelle, Édouard, Alexis et Anaïs, qui améliorent leur technique de course en fauteuil roulant et de lancer. Camille Réau, la coordonnatrice du programme, souligne que leur progression est impressionnante et leur esprit de dépassement aussi. Les athlètes qui vivent de sport, comme la natation et le basket, ont déjà remporté plusieurs médailles lors de compétitions et on parle beaucoup de leur dynamisme. Et le programme donc vise à développer leur potentiel et à promouvoir l'inclusivité dans le sport. Et on arrive à la fin de cette demi-heure. Après la pause, on reçoit Anne-Marie Aubin. On va parler de littérature.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages. nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons. Mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Zao de Sagazan, la symphonie des éclairs.
Il fait toujours beau quand on ouvre un livre. En tout cas, c'est mon opinion. Et je vais voir si Anne-Marie Aubin, notre chroniqueuse littéraire, est d'accord avec ça. Oh, elle n'est pas là. Oui, allô Anne-Marie?
Bonjour.
Oh, le son n'est pas bon. T'es un petit peu... T'es un petit peu fond de canne de conserve. Peut-être que te déplacer dans une autre pièce?
Voilà,
c'est... Ah, c'est génial. Alors, je disais que après avoir entendu Zao de Sagazan qui disait « il fait toujours beau au-dessus des nuages », moi, je dis « il fait toujours beau quand on ouvre un livre et qu'on regarde les pages et qu'on lit ». Je vais voir avec toi, tu es d'accord avec ça, toi?
Tout à fait, oui.
Alors, le titre que tu nous proposes aujourd'hui, c'est un titre que j'ai lu déjà. Faut le faire, là, c'est une coïncidence. Un titre hyper intéressant, à mon avis, puis j'ai hâte de voir ce que tu en penses. Ça s'appelle donc « Les étoiles comme des petits poissons », c'est de Casey Plett.
En effet, la semaine dernière, j'ai parlé du 12 août, mais habituellement, suite au défilé de la Fierté gay, je vais toujours chercher des livres en lien avec la thématique, et puis j'avais ce livre-là en tête, et j'ai ouvert ça cette semaine, c'est quand même plus de 400 pages. Oui. Puis habituellement, je divise mes pages en nombre de jours, mais là, dès que j'ai ouvert le livre, j'ai triché, hein. Je les ai bien plus que 100 pages par jour. Alors, ce qui fait que j'ai vraiment basculé dans ce livre-là, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, d'autant plus que tout de suite, en ouvrant la page, il y a Daniel Grenier et Pascal Roux, qui sont les traducteurs, qui font une espèce de mise en garde, qui témoignent de leur professionnalisme et de leur travail, comment une personne cisgenre ou une personne trans, un homme, peut-il traduire le roman d'une femme trans? Enfin, c'est toute la problématique est là. Et puis ce livre-là s'est mérité deux prix en 2019. Il est paru en 2018. On est en 2025 et on comprend que ça a été long de trouver un éditeur qui voulait bien le publier. Donc, comme quoi, il y avait quelque chose autour de ce titre-là. Et moi, je suis ravie qu'il ait été traduit, puis j'espère que les autres vont l'être aussi, parce que j'ai pas lu les autres livres qui sont seulement en anglais. Donc, ce livre-là aborde énormément de thématiques autour de la LGBT+, la transféminine, le féminisme, la prostitution, l'alcoolisme, la difficulté de vivre finalement dans cette identité floue qu'un enfant ou un adolescent peut ressentir avant de choisir de changer et de faire la transition. C'est l'histoire, donc, de Wendy, et c'est elle qu'on suit dans l'intimité, du début jusqu'à la fin. On voudrait la prendre dans nos bras tellement qu'on trouve par moments qu'elle souffre, et puis on s'attache à cette personne et à tous les personnages en général. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est un roman qui était tout en dualité. Tu me diras, toi, qu'est-ce que tu en penses, mais oui. Je trouve qu'il y a toujours des choses qui s'opposent. Hein?
Oui, oui. Ben, en fait, c'est hautement intéressant parce que, tu sais, on va se dire, hein, moi, je dis aux gens, je suis journaliste, je suis neutre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'opinion, puis je n'ai pas de prérequis. Alors, quand j'ai lu ce livre-là, puis là, on tombe dans une religion, si je ne me trompe pas, ménonite, qui est assez dure envers les communautés de la diversité sexuelle et de genre, ça m'a confronté. Ça m'a confronté, oui.
Oui, puis elle, qui est issue de cette religion-là, ben, elle va subir, dans le roman qui se divise en deux mois, novembre et décembre 2015, elle va subir deux deuils difficiles. Le premier, sa grand-mère. Et là, à la funéraille, son nom n'apparaît pas ni dans la notice ni dans le petit cahier de la funéraille, comme quoi elle n'existe pas parce qu'elle a changé de sexe. C'est terrible d'entendre ça. Mm-hmm. Deuxième drame qui se passe dans ce décès de la grand-mère, elle reçoit un appel téléphonique d'une tante éloignée qui lui dit comme ça que le grand-père de cette jeune fille donc aurait été quelqu'un qui avait un problème, je sais pas, elle le nomme jamais, mais elle dit il est comme le fils de Ben qui maintenant se fait appeler Tulipe. Mais ce qu'elle sait pas, cette femme Anna qui téléphone, c'est qu'elle parle au fils de Ben qui est devenu Wendy. Alors donc un autre affront où finalement elle s'aperçoit que la famille issue de cette religion-là est très 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 fermée. Donc elle est toujours en opposition entre l'authenticité de Wendy qu'elle sent au profond d'elle-même, puis la difficulté de l'afficher cette vérité. Donc c'est très très difficile. Et plus tard, bon, sa meilleure amie qui s'appelle Sophie va s'enlever la vie. Le lendemain où elle lui a dit « Toi, as-tu des idées suicidaires? » Alors, imaginez la culpabilité de cette fille-là quand elle apprend le décès de son amie qu'elle a vu quelques heures avant. C'est terrible. Et puis, on se dit toujours « Est-ce que j'ai pas senti? Est-ce que je suis coupable? » C'est un autre deuil très, très difficile. Et on apprend au fil des pages combien il est difficile pour cette communauté de femmes qui sont des trans, qui sont amies, qui sont solidaires, mais de vivre. Par exemple, à un moment donné, elle va dire, suite au deuil, « Je veux pas me tuer, mais je sais pas si je veux vivre non plus. Ouais. » C'est terrible, hein? Ouais. Alors, tout ce qui est dans la quête d'identité va passer à travers aussi la quête d'identité de son grand-père, qui s'appelle Henry, et dont on ne sait pas trop, finalement. Puis avec des petits indices, elle va découvrir que cet homme-là aussi était une femme et aurait voulu, mais à une époque, puis dans un monde religieux où c'était absolument impossible.
Et on voyait qu'il allait fréquenter à Winnipeg, il allait fréquenter des bars oui. gays, en cachette. On a appris ça, là, mais on apprend ça un peu plus tard dans le livre, mais vraiment, c'est triste. C'est triste.
Oui, elle voit à un moment donné son grand. Elle apprend qu'il était venu puis qu'il avait demandé une information au bar.
Oui.
Donc, il y avait un ami, un amant, peut-être. On peut imaginer tout ça. Alors, elle va faire face à tout ça. Elle va. Donc, c'est une belle manière de la part de l'autrice de passer par l'histoire du grand-père pour raconter c'est quoi cette religion-là, c'est quoi les préjugés, c'est quoi les jugements qu'il y avait. Et c'est un roman qui m'a bouleversée, écrit dans un langage cru. Mais vrai, authentique, on y croit. C'est parfois dur, mais d'autres fois, il y a des petits rayons de soleil. Puis on voit la volonté de cette fille-là de vivre. Et son ami va lui dire à un moment donné, « quelque chose comme c'est difficile de rester en vie, même, tu sais, juste ça, essayer de vivre. Puis elle va nous raconter aussi le choix qu'elle a fait de changer de sexe quand elle va en train à Montréal et puis qu'elle subit la chirurgie avec un peu de peur parce qu'effectivement, c'est un choix difficile, mais que son père, qui s'appelle Ben, comprend. Puis il y a une belle relation avec le père. Ça, je trouve ça intéressant. Ça, c'est venu sur le tard, mais ils se revoient, prennent beaucoup d'alcool pour arriver à être à l'aise et se parler vraiment. Et bon, ben, c'est intéressant. Puis j'ai trouvé que la traduction de Daniel Grenier était, comment je dirais, on la sentait par des québécismes,
oui.
Par exemple, tous les sacres.
En fait, oui, tous les F-U-C-K sont devenus des C-A-L-I-C-E, alors oui, ou des C-R-I-S-S-E. Donc, finalement, oui, en fait, c'est ça qui a fait en sorte que je comprenais davantage parce que c'était une langue qui nous rejoint. Et là, la frustration passait drôlement plus fort de cette façon-là aussi.
Effectivement, oui, on la sent très proche de nous, c'est peut-être ça, effectivement. Puis, la syntaxe aussi, qui est très québécoise,
oui.
Dans les dialogues, de ne jamais mettre de négation, par exemple, quand elle dit « je ne sais pas si je veux vivre ».
Oui.
Bon, le choix des mots aussi est très intéressant. Et puis, l'autrice, qui vit donc au Manitoba, cite des écrivaines, des faits réels. Donc, c'est une fiction qui se passe en 2015, on comprend, mais à travers le récit de la fiction, il y a des petits clins d'œil à des réalités qu'elle entend à la radio, dans les journaux, ou à faire référence à des livres, à des auteurs, à des chansons, à de la musique. Et ça nous met, comment je dirais ça, ça ajoute de l'authenticité à ce récit-là qui est inscrit dans une époque. Parce qu'elle a 30 ans, donc on est en 80. Elle a fait son choix, elle avait 22 ans, elle a 30 ans. On est dans les années 85 à peu près quand elle a fait ça. Alors donc, on comprend ces années-là de sa vie à elle, les influences, et l'Ouest canadien, qu'on ne connaît pas trop, mais qu'on découvre finalement, surtout via cette religion-là. Et puis le petit clin d'œil, moi je me suis demandé pourquoi ça s'appelle les étoiles comme des poissons, là. Le petit clin d'œil que j'ai trouvé, c'est qu'à un moment donné, il fait beau soleil, il y a de la neige, puis elle voit les enfants qui jouent dans une cour d'école ou un parc avec des habits de neige colorés, puis elle va dire que leurs habits sont comme des petites étoiles multicolores dans le blanc de la neige. Fait que j'ai pensé que c'était un peu ça, finalement, que c'était les petites notes d'espoir, de lumière dans la noirceur de cette histoire qui est la sienne et qui est celle de beaucoup de gens probablement qui vivent la même chose qu'elle. Et puis l'autrice, il faut lui donner ça, là, c'est une excellente conteuse.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Les 400 pages, est-ce que vous avez eu du mal à les lire, Tony?
Écoute, j'ai lu ça, j'ai dévoré le livre. Même un peu comme toi, Anne-Marie, j'ai commencé à lire, je vais prendre mon temps, ça va prendre du temps, je vais faire ça. Puis je l'ai lu, moi, j'étais en vacances au Mexique et j'étais incapable de mettre mon livre de côté. Je l'ai fini en 2 jours, je pense.
Moi, c'est ça, il y avait de la visite dans ma maison. Alors, je me suis retirée au bord de la rivière, là. Et puis là, j'ai lu en cachette là, pour pouvoir avancer. Là, les gens me disaient... Okay, ça avance bien. Oui, j'ai dit après-midi, j'ai lu 150 pages là, parce que je ne peux plus arrêter. Alors, c'est ça, il faut lui lever le chapeau là, parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de choses, beaucoup de dialogues, beaucoup de personnages, mais elle a l'art de raconter, elle a du souffle, il y a du rythme là-dedans, il n'y a pas de longueur. Ouais, souvent, dans un livre de 400 pages, on dit « Ah, j'en ai enlevé 50 », mais là, non. Et puis, j'ai trouvé que les réflexions étaient parfois très profondes. Mm-hmm. Par exemple, quand elle va décider d'aller faire sa chirurgie, elle explique pourquoi elle fait ça, puis pourquoi elle est à Montréal. Et je la cite, elle dit « Ce pourquoi elle était là, pour laisser place à la simple pureté de son corps quittant un état pour entrer dans un autre. » Alors, c'est comme si, loin de chez elle, la métamorphose va mieux se vivre qu'autour d'elle, dans un petit milieu où tout le monde l'observe, tout le monde la juge. Et là-bas, elle est complètement inconnue et elle va passer ses soirées dans les bars. Elle va aller voir c'est quoi ce qui se passe dans cette grande ville-là pour se donner confiance et puis aussi, je sais pas moi, s'encourager dans ce choix qu'elle a fait parce que ça doit pas être évident, effectivement. Fait que bref, un roman que je recommande à tous parce qu'on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai fait des recherches quand j'ai cité quelqu'un ou qui était question de cette chose dont elle se moquait. Une chose que je ne sais pas s'il me reste une minute. Là,
ah, mais... on a du temps. On va dépasser, c'est pas grave. Je suis un petit peu plus flexible pour cette dernière demi-heure.
Alors, il y a un petit test quiz que tu peux faire. Là. Et puis là, ben, les filles s'amusent à rire de ça parce qu'ils ont dit qu'il y a même une fille qui l'a faite. Je ne me souviens plus comment que ça s'appelle, là, mais c'est un quiz qu'on peut faire sur Internet pour savoir si on est une femme, si on est un homme, si on est trans, si on est je sais pas quoi. Alors, eux autres se moquent de ça et j'ai été voir et ça existe vraiment.
Ben, t'as été plus forte que moi. Moi, je l'ai pas fait, ça. Je l'ai pas fait, mais ah ouais. Alors, écoute, je pense que je vais aller faire le test, moi aussi, je vais le trouver.
Ça s'appelle Siogiti, oui. Quelque chose comme ça. C'est Kogiati. Ah, alors, okay. C'est un truc en ligne. Puis ça a été créé en 1990. Puis ça, une chose aussi qui m'a marquée, c'est que, par exemple, elle a gagné un prix pour le roman LGBTQ qui a été créé en 1989. Alors, ça fait longtemps qu'on s'intéresse à ça, puis qu'on du côté anglophone, du moins. Oui. Ici, j'ai l'impression qu'on arrive avec ça.
Ben, écoute, il y a eu... moi, j'ai gagné le prix du roman gay en France, et ça fait peut-être pas plus qu'une vingtaine d'années que ça existe. Mais ici au Canada, non. Puis je sais que The Valley Tower, là, qui est un organisme littéraire anglophone queer, ils ont eu un prix pendant un bout de temps, mais je ne sais pas trop ce qu'il y en est avec Metropolis Bleu. Je vais ajouter quelque chose qui est intéressant, parce que je connais Amélia Fizette. C'est une personne donc qui a fait de la lecture sensible.
Oui.
Ça, je trouve que c'est important de le signaler parce que les traducteurs, même si Pascal Rowe est une personne trans, ne se sentaient pas à l'aise puisque c'est une transition de femme à homme. Voulait absolument éviter de maltraiter le texte et que certaines personnes se sentent agressées ou violentées par le texte.
Oui. Ouais. Et ça témoigne du professionnalisme de ces trois personnes-là. Alors, j'avais pas nommé Amélia Fizette, mais effectivement, Daniel Grenier avait d'abord contacté l'auteur en tant qu'un homme, cis, en disant ça va-tu? Puis elle a dit oui, je t'accorde le droit de traduire. Puis ça a été long parce que finalement, je pense que c'était beaucoup plus laborieux que ce qu'il pensait au début, parce qu'effectivement, on a beau être empathique, comme il dit, on n'est pas dans sa peau. Alors, de quel droit, moi, je me prétends le traducteur? Alors, en équipe comme ça, je trouvais que c'était fabuleux. Et c'est sans doute ce qui contribue à l'authenticité de ce texte qui s'est mérité. Donc, le prix, ça s'appelle Lambda Literary Award for Transgender Fiction en 89, qui ont commencé à récompenser les prix. Alors, c'est là que je me suis dit, ben mon Dieu, ça fait presque 40 ans, ça. Puis ici, au Québec, il me semble qu'on a du retard par rapport à ça. On a toujours l'air d'être bien ouvert, là. Mais sur le plan littéraire, là, je trouve que c'est... En tout cas, bref, moi, je le conseille à tout le monde pour apprendre, mieux comprendre ce monde-là, et puis voir aussi comment c'est quelque chose qui est à développer, à éduquer auprès des autres, parce qu'il y a des jugements de valeur là-dessus encore aujourd'hui.
Bien, Anne-Marie, quelle belle façon de terminer notre collaboration. Toi et moi, cet été, la semaine prochaine, Hélène est de retour. Merci beaucoup pour ces précieuses chroniques sur la littérature.
Ben merci, puis bonnes vacances, j'imagine que c'est
C'est déjà fait les vacances. Je vais prendre quelques jours, puis moi, j'ai une autre émission à préparer, là, puis j'ai pas d'avance. Alors, on va travailler là-dessus.
Au revoir.
Au revoir. Merci.
appelle-moi un taxi.
Et on écoutait « À l'est d'Éden » par Dumas.
Le journal de Chambly maintenant, là, grâce à une subvention de 740 000 $, la régie de police Richelieu-Saint-Laurent a mis en place un projet pilote novateur pour la santé mentale. L'agente Nadia Delisle-Belluze est la policière dédiée à temps plein à l'équipe de soutien à l'intervention psychosociale, ou ESIP. En duo avec un travailleur social, elle se rend sur les lieux d'une crise pour stabiliser la situation et orienter les personnes vulnérables vers les ressources appropriées. Cette initiative, qui vise à réduire les interventions policières en matière de santé mentale, permet aux policiers et aux travailleurs sociaux de collaborer pour offrir un meilleur soutien. L'agente Delisle-Belluze affirme que cette approche plus humaine est ce qu'elle a toujours voulu faire. Le projet est une avancée significative pour la région.
Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel de doigts. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, car après le beau temps vient la pluie. C'est ce qu'on oublie, c'est toujours trop beau pour être vrai, mais ce n'est jamais trop. Demain, je rachète hier, le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident. Je cherche la vérité tout en l'évitant. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel du doigt. Est-ce que j'entends? Ce n'est que du vent. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Car moi je chante ma vie, la vôtre et un peu de romance. Je suis une devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi, de moi à vous, ai-je réussi à chanter? À chanter la grande France. C'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Évidemment.
Et on écoutait Lazara, évidemment.
Oui, une chanson qui était donc qu'elle a chantée pour représenter la France à l'Eurovision il y a 2 ans de ça. Et toute cette controverse au sujet d'un signe de la main qu'elle a fait, qui s'appelle en marocain, ou en tout cas, la tose. Mais quand on regarde comme il faut, ça peut être interprété différemment. Mais bon, voilà. Donc, Lazara, qui qui a grandi sur la rue sud de Montréal et qui a représenté la France avec cette chanson lors de l'Eurovision de 2023. Moi, il me reste un petit peu de temps pour vous dire aujourd'hui, c'est une journée quand même assez plaisante au Québec. On aura peut-être un peu de pluie en Ontario. C'est un peu plus chaud dans l'Ouest, mais ça reste quand même plus agréable que ça l'a été la semaine dernière avec des humidex à 40. C'était un peu beaucoup collant. Alors, tout ça, ça va nous faire du bien. Demain, à l'émission, on reçoit, entre autres, vous connaissez Olivier Niquette, qui va nous parler d'un nouveau livre. Alors, il va être des nôtres demain à l'émission. Je remercie Samuel Bedel, qui est mon complice pour cette émission, qui fait cette belle mise en onde pour que ça soit agréable. Et puis, ben voilà, il reste deux émissions avant que Hélène revienne. Alors, je vous souhaite une bonne journée. De retour demain à 9h30.